France Inter, le 18-20.
C'est un peu un inventaire à la Prévert, mais allons-y. Et c'est dans le désordre. La fin des emplois aidés. D'abord, une loi de finances 2018, la baisse des APL au milieu de tout ça. Et donc, à la peine aussi, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Une fois de plus, les maires de banlieue appellent à l'action. À l'époque, ils signent l'appel de Grigny. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en octobre dernier, espérant un sursaut et puis patatras. Rien de mieux qu'un rendez-vous avec le ministre de la Cohésion des Territoires, qui de la vie de tous s'est extrêmement mal passé. D'ailleurs, tiens, en parlant de ministre, un vrai ministre de la ville serait déjà un signe encourageant, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. Abandonné, méprisé, les quartiers, les associations, les mairies, après, on vient s'étonner de replis communautaires. Du coup, j'ai des ponges au 17e round, 17 ans de mairie. Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, ne veut plus être maire. Certains de ses collègues, autour de la table y compris d'ailleurs, témoignent de leur solidarité et même de leur ras-le-bol avec un hashtag « Nous sommes tous Gatignon ». Les maires de banlieue sont en burn-out, ils le disent. Ils attendent le rapport Borloo comme celui de la dernière chance. Les banlieues brûlent et on regarde ailleurs. On en parle ce soir au téléphone sonne. Et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Sophie, c'est vous qui êtes la première au téléphone sonne ce soir. Soyez la bienvenue et on vous écoute.
Ah, c'est très gentil de prendre ma question et j'adore France Inter.
Eh bien, formidable.
Alors, ma question,
ça commence très bien cette question.
En fait, ça fait 30 ans qu'on a l'impression que rien n'est fait, ou en tout cas pas beaucoup, si peu de choses, il n'y a rien qui change. Alors, je voudrais poser la question à vos invités et leur demander qu'est-ce que ce serait pour vous une bonne politique de la ville. Et est-ce que vous pensez que les émeutes de 2005, qui ont quand même été d'une violence inouïe et vraiment terrible pour notre société, pourraient recommencer si rien ne change?
Merci beaucoup Sophie pour cette question et pour entamer ce téléphone sonne jusqu'à 20h. Et pour vous répondre, Catherine Arnoux, il est autour de la table, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes, c'est dans les Yvelines. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association Ville et Banlieue. Bonsoir Stéphane Troussel.
Bonsoir.
Vous êtes président du département de la Seine-Saint-Denis et puis en duplex au bureau de Radio France à Lyon. Moulir, Ali Moknach est là. Bonsoir Monsieur Ali Moknach. Vous êtes membre du collectif Passons-nous à Lyon. Soyez le bienvenu aussi au téléphone sonne. Beaucoup de choses dans la question de Sophie. À l'instant, je voudrais qu'on commence avec vous, Catherine Arnoux. D'abord, ça fait 30 ans, effectivement, elle a raison, Sophie, qu'on a l'impression d'entendre et de dire les mêmes choses. Pourquoi c'est pire maintenant? Est-ce que c'est pire maintenant? Est-ce qu'on est arrivé à une sorte de point de non-retour?
Non, c'est pas pire maintenant, mais c'est pas mieux. Alors, je voudrais tout de suite dire que c'est pas vrai. On a fait beaucoup de choses et des choses ont changé. On a qu'à aller. Enfin, pour ceux qui vivent dans les quartiers, le plan de rénovation urbaine numéro 1,
non, c'est pas que vous ne faites rien. C'est la grogne qu'on entend qui est la même depuis 30 ans, les mêmes besoins vraisemblablement.
Alors, une nouvelle grogne pour une vision un petit peu différente. Qu'on se mette dans la situation de nos quartiers. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup d'habitants ont été accueillis, beaucoup d'habitants ont réussi et beaucoup d'habitants qui réussissaient sont partis. Mmh. Et c'est normal, ça s'appelle l'ascenseur social et ça doit exister dans notre société, ça doit exister partout. Et quand ils s'en vont, parce qu'on a réussi à les accompagner pour qu'ils aillent mieux, ils sont remplacés par des gens qui vont moins bien. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans des grosses agglomérations, qu'on est dans des situations comme la région parisienne, par exemple, où il y a une énorme demande de logement social et donc ce logement social est accepté par les gens les plus en difficulté. On a fait beaucoup, on accompagne, on a des vraies réussites. Pourquoi on a une grogne? Parce que là aussi, on a une grogne des maires et on n'a pas seulement une grogne des habitants qui peuvent comprendre d'ailleurs, qui nous accompagnent de notre grogne. Pourquoi? Parce que avec beaucoup de mois de flottement, il y a une espèce de groupe et d'ambiance d'espoir. Alors, espoir tout relatif, hein, on est des optimistes réalistes sur les territoires. Mais au moins, on a pu travailler avec beaucoup d'énergie, de tous horizons, avec les associations. On a pu travailler à des propositions, en tout cas avec un diagnostic commun et des propositions.
Vous avez eu l'impression que les choses étaient en train de bouger, puis finalement, pas tellement.
L'impression qu'on arrêtait de s'adresser à des technocrates pour s'adresser à des experts de tous bords, y compris des experts de terrain, et que de ça allait peut-être naître une nouvelle façon de regarder la politique de la ville.
Et non.
Et on a eu le sentiment que non. Alors, ce deuxième sentiment pourra être nuancé, parce que l'espoir continue à nous faire vivre, quoique, par la façon dont on accueillera, dont le gouvernement accueillera le plan Borloo.
Alors, on va y venir à l'instant au rapport Borloo. Effectivement, vous attendez tous, peut-être avec non seulement beaucoup d'impatience, Stéphane Troussel, mais un peu comme le Messie. On attend peut-être trop ce rapport Borloo, non ?
Non, pas le Messie, mais il faut reconnaître que, notamment, moi je partage ce que disait la maire de Chanteloup, à savoir que moi je ne fais pas partie de ceux qui crachent sur la politique de la ville et la rénovation urbaine. Il suffit de se promener dans ces quartiers pour voir qu'ils ont été physiquement transformés. Personne ne peut dire le contraire. Moi, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Sevran, à La Courneuve ou à Stein, ça se voit. Les immeubles, les quartiers, les aménagements, les espaces publics, les équipements publics ont été transformés. D'abord, la première chose, c'est que ce n'est pas terminé. Il faut absolument faire un nouveau programme national de rénovation urbaine. Sinon, ce qu'on a fait, ben finalement, ça sera gâché parce que si on n'a pas le... En Seine-Saint-Denis, j'ai besoin à peu près des mêmes volumes financiers pour mener un deuxième plan national de rénovation urbaine.
Et disons, pour l'instant, vous ne l'avez pas, cet argent-là.
Non, mais non seulement pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est silence radio. Les règles de financement qui sont connues ne nous permettront pas de faire la même chose. Et deux, par ailleurs, le gouvernement, tous les jours, prend des décisions qui vont à l'encontre de ça, de cette capacité à mener. Ils viennent de décider...
Donc exemple, vous me parlez de l'APL, vous me parlez de tout
ça. Par exemple, ils viennent de décider dans la loi, dans le projet de loi de finances 2018, dans la loi de finances 2018, de ponctionner les organismes HLM. Seine-Saint-Denis Habitat, qui a 15 projets de rénovation urbaine à mener en Seine-Saint-Denis, il vient de se faire ponctionner de 11 millions d'euros par an. Et comme les mairies ou le département sont eux-mêmes asphyxiés financièrement, on ne pourra pas faire le même plan. Donc soit... Ils changent les règles du jeu actuelles pour que on ne soit pas qu'à des discours, mais il y ait des actes. Soit il n'y aura pas de nouvelles rénovations urbaines de la même ampleur. Deuxième chose, le président de la République. Moi, je ne suis pas un de ses partisans, mais quand je l'entends sur
les
banlieues...
Vous êtes estampillé PS, hein, pour rappeler quelle est votre couleur politique.
Quand il est venu en Seine-Saint-Denis, par exemple, sur les Jeux Olympiques, il est venu à Clichy-sous-Bois parler de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, il est allé faire un très beau discours à Tourcoing. Sur le discours, je n'ai pas grand-chose à redire. Mobilisation nationale, l'importance pour l'avenir du pays, de ses quartiers, mais tous les jours...
Je sens la pointe d'ironie monter, la Stéphane Troussel.
On est confronté à des actes qui sont en contradiction avec ces belles paroles. Donc oui, maintenant, on attend que les actes suivent ces belles paroles.
Mounir Ali Mokhtash, depuis Lyon, sur le constat, est-ce que vous êtes pour le coup, là, comme le disait Catherine Arnoux tout à l'heure, main dans la main avec les maires, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose ? On voit la même chose des deux côtés du spectre ?
Non. Moi, je ne partage pas du tout. Enfin, on est loin de la réalité de terrain, hein, concrètement. La question de votre auditrice était qu'est-ce qu'une bonne politique ? Qu'est-ce qu'une bonne politique de la ville ? Et concrètement, les deux personnes qui sont sur le plateau répondent uniquement sur la rénovation urbaine. Mais on va pas faire mieux vivre les quartiers. On réparera pas, on fera pas une bonne politique de la ville en trouvant la rénovation urbaine comme l'unique solution.
Il n'y a pas que les murs qui comptent, c'est ce que vous dites, monsieur Limoges.
Exactement, non. Une vraie politique des quartiers, c'est une politique où on a une vraie égalité des chances, où on a droit aux mêmes écoles que les autres, où on arrête la stigmatisation. Et surtout, le plus important, c'est une politique où l'habitant est au cœur de toutes les décisions. Et concrètement, si vous voulez avoir une vraie solution, moi, je vous invite à lire le rapport Mechmash-Baquet qui remet vraiment l'habitant au cœur de toutes ces politiques pour justement corriger, pour réformer justement cette politique de la ville. Ce n'est pas que la rénovation urbaine, même si effectivement il y a un travail qui a été fait autour de la rénovation urbaine, mais ce n'est pas l'unique et la seule solution.
Et alors c'est là-dessus que je voulais vous emmener avant qu'on puisse vous répondre, Mounir Ali Mokhtash. Cependant, comme le disait Catherine Arnoux tout à l'heure, il y a quand même eu un certain nombre de progrès qui ont été faits. Est-ce que quand même vous les sentez ? Est-ce que ça se voit dans le quotidien, chez les habitants, même si effectivement on entend qu'il reste des manques ? Est-ce que vous sentez des choses qui ont bougé ces dernières années ou vous diriez pas du tout, vous ?
On a du mal à sentir qu'il y a du changement. On a connu ces dernières années la droite, la gauche, et concrètement, on a vraiment beaucoup de mal à distinguer un changement depuis toutes les politiques qu'il y a eu, des lois Borloo, des nouveaux contrats de ville, etc. On a beaucoup de mal à voir tout ça.
Merci beaucoup. Vous allez évidemment avoir l'occasion de réintervenir très régulièrement. Je voudrais qu'on écoute Cyril. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne, on vous écoute.
Merci. Bah ouais, moi j'appelais parce que j'ai habité pendant de longues années, enfin, toute mon enfance, dans une cité HLM en région parisienne, à Suresnes, pour pas la situer. Enfin, c'est pour vous dire, c'est à 20 minutes de l'Étoile, c'est à 20 minutes de la Défense. Et bon, bah, c'était une commune où il y avait une multitude de colonies de vacances un peu partout en France, au bord de la mer, à la montagne. L'hiver, on pouvait aller au sport d'hiver avec les colonies, enfin les classes de neige en Haute-Savoie. L'été, dans le chalet, c'était les personnes âgées qui y allaient. Et il y avait un tissu social qui se créait. Tous les gosses des quartiers différents se retrouvaient au bord de la mer. On le voyait ensemble. Et bon, bah, tout ça, ça a été vendu, alors pour X raisons, je l'ignore. Et ce qui fait que maintenant, bah, les enfants, les jeunes des cités, bah, l'été, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont désœuvrés, ils traînent les rues, puis bah, ils font des bêtises, enfin, c'est bien dommage. Et ça, c'était une cité qui a été classée, qui était un monument historique, et qui était partiellement mis à la copropriété, ce qui fait que maintenant, les logements sociaux sont réservés à une certaine classe. Et donc, ils n'ont pas besoin de colonies de vacances. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir partir en vacances régulièrement. Et je trouve que c'est dommage pour une politique de la ville qui aurait pu continuer. Parce que c'était bien, ce système de colonies de vacances. Moi, j'en ai d'excellents souvenirs.
Et nous tous, et moi aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Cyril pour cette intervention, Catherine Arnoux, sur le tissu social, le fait que les enfants se retrouvent à la colo, les parents aussi, enfin il y a quelque chose de commun à l'intérieur de la cité. Est-ce que ça a disparu?
Oui, ça a disparu. Ça a disparu, on le déplore, mais c'est les vagues successives de chômage qui ont touché plus certaines populations que d'autres, qui ont fait fuir celles qui commençaient à aller un peu mieux et qui ont concentré effectivement des populations où la mixité, hein, sociale dans le sens, à mes yeux, c'est pas une mixité technique, c'est une mixité sociale de d'avenir et de revenus. Oui, c'est vrai que ça a changé. C'est vrai que quand on interroge nos jeunes, quelques temps après qu'ils aient quitté nos cités, ils en ont quand même encore des souvenirs assez exceptionnels, parce qu'il y a de la solidarité dans nos quartiers, parce qu'il y a des actions qui accompagnent les enfants, beaucoup plus qu'ailleurs. Et si on a abandonné le phénomène de la colonie de vacances, on tourne les enfants, vraisemblablement, et les jeunes, vers plus de solidarité, solidarité à l'extérieur, solidarité en Afrique, avec des projets, donc on est plus enfants de projets. Mais je pense qu'il y a quand même, au niveau de ces jeunes, ils garderont quand même un espèce de souvenir un peu idyllique. Mais c'est vrai, la mixité qui existait dans ce qu'on appelle les quartiers populaires d'il y a 30 ans n'est plus déclinée pareil, surtout dans la grande banlieue.
Mais ça veut dire, disons les choses clairement, que la mixité sociale n'existant plus, les gens et l'État étant impuissants vraisemblablement, est-ce que les gens se replient sur leur communauté? Est-ce que c'est un repli ethnique? Est-ce que c'est un repli religieux? Disons les choses clairement, est-ce que c'est par là que ça passe, Stéphane Troussel?
Non, mais il y a des tendances dans la société, malheureusement, au repli sur soi, à l'individualisme, et y compris à la recherche de formes, comment dirais-je, de communautés différentes que celles dont on parlait, qui étaient davantage des communautés humaines, y compris où on partageait quels que soient les revenus. Et donc, oui, ça c'est malheureusement une tendance, mais qui n'est d'ailleurs pas propre au quartier populaire. Hein. L'entre-soi au plus haut niveau de la société, il existe aussi. Bon, donc moi j'en ai un peu ras-le-bol aussi de ce discours. En gros, ça serait les pauvres et qui ce serait naturellement ou spontanément. Enfin, l'entre-soi, il commence d'abord à l'autre bout de la société.
Non, ce que ça veut dire, c'est que si l'État est défaillant, on va chercher l'aide dans sa communauté, autour de soi.
Mais ce que je veux vous dire,
y compris aussi dans son ethnie et sa religion, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une tendance malheureusement générale dans nos sociétés, effectivement, à l'entre-soi, au repli. À l'individualisme. Et donc c'est vrai aussi pour ces quartiers, avec des conséquences dramatiques dans un certain nombre de cas. Donc oui, il faut retrouver, c'est aussi pour ça que toutes les actions qui visent à faire de la mixité, que ce soit par le bâti, que ce soit par les différentes actions, la situation à l'école, etc., ça va dans le bon sens. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à notre interlocuteur associatif,
Cyril.
Cyril, Enfin, je crois pas que ni Catherine Arnoux ni moi, nous n'avons dit que la question c'était que la rénovation urbaine, bien évidemment. Et qu'il s'agisse de l'éducation, de la police, de la justice, il faut absolument mettre le paquet. Ce qui est insupportable actuellement pour les acteurs, qu'ils soient élus, associatifs, habitants, c'est qu'on a le sentiment que finalement, quand on est dans les quartiers populaires, on a besoin en permanence de déployer de deux fois plus d'énergie, de se justifier deux fois plus, qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier
auprès
pour convaincre.
Auprès de qui,
notamment
Monsieur
des pouvoirs publics. Regardez, nous, en région parisienne, on s'est battu pour avoir ce métro du Grand Paris Express. Parce que quand vous êtes excusez-moi de prendre mes exemples en Seine-Saint-Denis, mais quand vous êtes à Clichy-sous-Bois ou à Sevran, et que vous mettez deux heures pour faire le tour de la banlieue ou pour aller dans le centre de Paris, oui, vous vous sentez un peu relégué. Et enfin, on avait obtenu un réseau de transport en commun qui fait qu'on n'avait plus besoin de repasser par Paris pour circuler en banlieue. Et patatras, un nouveau gouvernement arrive, et puis c'est en gros la doxa libérale de Bercy qui dit « Ah ben non, hein, ce projet, vous comprenez, ça coûte trop cher ». Enfin, quand il s'est agi du métropolitain parisien, on ne s'est pas inquiété ni du financement, ni de l'endettement. Et quand il s'agit des banlieues, c'est toujours compliqué. Donc il faut mettre le paquet, il ne faut pas faire deux pas en avant et trois pas en arrière en fonction des alternances politiques. Donc il est temps qu'au plus haut niveau de l'État, on se dise « C'est l'avenir du pays qui se joue là-bas ».
Donc ce que vous dites en creux là, c'est qu'on a fait deux pas en arrière quand même.
Oui, on est à nouveau, ça fait un an que ce gouvernement est en place, et on est à nouveau obligé de multiplier là, les initiatives, les appels, les alertes, de déployer de l'énergie pour dire « mais allez-y, il faut continuer dans le même sens, ne revenez pas en arrière ».
Mounir Ali Mokhtar, je ne vous ai pas oublié, je voudrais qu'on écoute Franck. Bonsoir Franck.
Oui, bonjour.
Et on vous écoute, Franck, soyez le bienvenu
bonjour,
sur Inter.
Bonjour, merci de prendre ma contribution. Bonjour, je suis directeur général des services pour une ville de 45 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Et je voulais apporter la contribution suivante pour réussir une politique de la ville. C'est qu'il est, à mon sens, urgent et important d'aller très vite sur l'accompagnement pour la formation culturelle de prêtres ou imams de différentes confessions par la République, de façon à ce que cette sphère-là réintègre la République, parce que le sentiment d'abandon, voire d'apartheid ressenti, est fortement lié à ce que il y ait une séparation complète, que beaucoup viennent de l'étranger et soient en rupture complète avec la République. Donc sur ce projet-là, malgré la loi de 1905, à mon sens, il faut avancer très très vite, parce que la fracture aujourd'hui observée, à mon sens, est grandement dû à ce problème-là.
Et avancer comment, pardon Franck, de vous relancer, vous qui êtes directeur général des services pour une ville, comme vous le dites, mais avancer comment? Dans quelle direction? Qu'est-ce que vous proposez?
Ben écoutez, c'est revoir certainement la loi de 1905 et que l'État mette en place des dispositifs pour former, pour que la République forme en la matière des imams, où on puisse avoir aboutir à un islam qui soit intégré à la République et respectueux des valeurs de notre République, de façon à ce que les jeunes derrière ne sentent pas cette fracture lorsqu'ils pratiquent leur religion.
Merci pour votre contribution, Franck. Mounir Ali Mokhtar, ce que dit Franck à l'instant, on a l'impression d'être aussi dans ce qu'on ressort toujours, en fait, dès lors qu'on parle de quartiers sensibles et dès lors qu'on parle de banlieue.
Bien sûr, c'est stigmatisation permanente. Aujourd'hui, quand on parle de banlieue, on parle islamisme, on parle radicalisation, on parle que de ça. Et c'est insupportable. C'est insupportable, cette stigmatisation qui est faite par les élus, par les habitants, par même des techniciens finalement qui travaillent pour une grande ville comme Franck, c'est juste n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous fait signer, les associations de quartier doivent signer des chartes de la laïcité pour pouvoir être financées, on nous stigmatise tout le temps. Donc c'est encore une preuve encore aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage parce que la question des quartiers populaires, c'est pas une question religieuse, c'est pas du tout ça.
Catherine Arnoux, je vous voyais approuver en même temps que parlait Mounir Ali Mokhtar.
Oui, comment vous dire, sur nos territoires, notre premier rôle pour remettre la République, c'est de faire un espèce de minimum commun. Il se trouve qu'on accueille des populations qui sont
généralement pas de langue française habituelle, et qui sont en plus d'origine démocratique, voire d'origine religieuse, souvent différente. Il faut qu'à un moment donné, on ait juste un minimum de vie commun. Nous, c'est notre rôle aussi de mettre la République dans notre quartier, c'est l'éducation et à quoi sert l'éducation pour tous, comment le parent joue son rôle de parent, enfin, voilà, ce qu'on a tous vécu dans nos enfances, parce que c'était ça la République. Alors quand la laïcité, c'est un des éléments de la République, ni plus ni moins, c'est un des éléments. Et moi, je comprends très bien, parce que moi, je le mets sur mon territoire, parce que c'est ça aussi un de nos petits dénominateurs communs. Quand les associations demandent de l'argent public, bien évidemment, elles s'engagent à porter un certain nombre de messages et à ne pas en porter d'autres, et à respecter ce qui est notre dénominateur commun. Moi, j'ai un sentiment religieux personnel, et je suis extrêmement laïque dans mon exercice de maire. Eh ben, c'est normal, c'est ça aussi que me demande la République française. Donc, je dois le faire. Mais on le partage, ça n'est pas du tout une contrainte, c'est un partage que tout le monde doit faire. Qui d'ailleurs, s'il est vécu comme ça, ne pose pas de problème sur nos quartiers, hein. N'est pas vécu comme une stigmatisation.
Stéphane Troussel.
Oui, enfin, bien évidemment qu'il y a des dérives individuelles qu'il faut empêcher, qu'il faut éviter, mais il s'agit absolument pas, moi je suis d'accord avec notre interlocuteur, il s'agit pas ni de généraliser, ni de stigmatiser. Oui, il y a un côté insupportable de pointer du doigt en permanence un certain nombre de ces quartiers. Mais le meilleur moyen pour éviter les dérives individuelles, c'est l'égalité républicaine. L'égalité républicaine, c'est notamment qu'en matière d'éducation, de police, de justice, contrairement à ce que parfois certains pourraient laisser croire, la réalité, c'est que le compte n'y est pas dans nos quartiers. On pourra me raconter ce qu'on veut. Je considère qu'il y a une forme de mensonge d'État sur ces questions, de nous dire qu'on en ferait trop, les quartiers, on aurait déversé des sommes et des sommes d'argent. Ce n'est pas vrai. Pour une raison parfois simple et mécanique, ce sont dans nos quartiers qu'il y a souvent les fonctionnaires, que ce soit les enseignants, les policiers ou les magistrats, les plus jeunes, les moins expérimentés. Et donc, mécaniquement, l'État y consacre moins d'argent. Alors que c'est justement dans ces quartiers-là où il y a une proportion de jeunes très élevée, où il y a des nationalités différentes, il y a des cultures différentes. Et si on veut développer ce sentiment d'appartenance à la République, cet en commun, il faut y mettre le paquet. Il faut des fonctionnaires expérimentés, il faut des fonctionnaires nombreux qui restent longtemps dans ces quartiers. Et c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Quand je vous disais, on a le sentiment qu'il faut en permanence déployer deux fois plus d'énergie. Moi, dans mon département, j'ai la chance d'avoir 35% de la population qui a moins de 25 ans. On fait plus de bébés qu'ailleurs. On a une natalité très élevée. Je dois quasiment livrer un collège supplémentaire à chaque rentrée. On a eu des créations de postes dans le quinquennat précédent. Et là, patatras, il faut recommencer. Il faut recommencer à prouver qu'il va falloir maintenir cet effort dans la durée. Quand ces territoires, la plupart, et je suis sûr que c'est le cas à Chanteloup-les-Vignes, même si on n'a pas les mêmes caractéristiques, mais c'est une population jeune.
Et donc, 48% moins de 24 ans.
Voilà, et donc ça demande un effort considérable. C'est bien l'avenir du pays qui est en train de se jouer là-bas. C'est des gens qui seront adultes dans quelques années, qui seront de fait l'avenir de ce pays. Et donc, il est temps que dans la durée, on y consacre des moyens exceptionnels.
Mounir Ali Moknach, vous vouliez intervenir ?
Oui, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais
c'est pas grave.
Mais voilà, non. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'était que effectivement, quand on est financé, on se doit de respecter la laïcité. On le fait depuis toujours. Les associations des quartiers populaires le font au même titre que les associations d'autres territoires. Mais il faut pas que seulement les associations des quartiers populaires ont à signer une charte de la laïcité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vise uniquement les quartiers populaires et les associations des quartiers populaires. Et moi, je voulais juste revenir sur l'esprit de solidarité et dire à Mme Arnoux qu'effectivement, non, ça n'a pas disparu. Moi, j'ai 28 ans, j'ai grandi dans un quartier populaire et la solidarité, elle s'est développée et elle se développe de plus en plus justement parce que l'État nous squeeze totalement. Et donc, effectivement, la solidarité, les projets menés par des jeunes sans forcément de fonds parce que les maires ne financent plus rien. On finance plus les petites associations, on finance que les grosses associations. Donc, du coup, on se débrouille par nous-mêmes. Et non, la solidarité est toujours présente. Après, effectivement, il y a une mixité aujourd'hui. La mixité, elle a du bon et elle a du moins bon. On la retrouve peut-être dans l'habitat, mais on la retrouve très peu à l'école. On la retrouve très peu dans nos structures sociales. On la retrouve très peu dans des fêtes de quartier, etc. Donc, il y a du bon et du mauvais. Donc, non, la solidarité, elle n'a pas disparu. Et on est de plus en plus amené à se débrouiller.
Bonsoir Monique.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Monique, on vous écoute.
Alors, j'ai juste un témoignage à apporter. J'habite depuis 45 ans à Aulnay-sous-Bois, à la limite d'une cité qui a depuis 5 ans l'installation d'un trafic de drogue qui gangrène évidemment, comme beaucoup d'endroits, cette cité. Et quotidiennement, les enfants, dès la prime enfance, sont confrontés journellement à ces vendeurs de drogue. La vie des gens est complètement pourrie puisqu'il faut justifier de l'endroit où l'on vit pour avoir le droit de monter dans les escaliers, sinon on n'a pas le droit. Enfin, c'est insupportable, c'est usant, les gens ne se sentent plus chez eux du tout, et tout ce qui existait comme tissu social à une époque où il y avait des centres sociaux à proximité, tout cela a quasiment disparu à cause du manque de subsides que la mairie pouvait mettre à disposition des éducateurs. Voilà, alors nous avons beaucoup œuvré dans le quartier, l'âge venant on œuvre moins, mais on est aussi tout à fait découragé parce qu'on se sent très seul. Voilà, face à ce problème de la drogue qui décidément ne se résout pas. Et c'est toujours les gens les plus pauvres qui subissent les conséquences. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Monique. Catherine Arnoux, un témoignage de Monique, on peut l'entendre chez vous, ce témoignage, ou pas ? À Chanteloup, sûrement.
Un peu, oui. Alors, oui, effectivement, que ces trafics existent dans nos quartiers, oui. Plus évidemment qu'ailleurs, alors que je pense que ça doit être quand même un peu diffusé dans l'ensemble de la société. Chez les plus pauvres, oui. Chez ceux qui sont le plus, c'est les enfants qui sont le plus accrochés par ce type de trafic parce que, évidemment, c'est plus facile de gagner sa vie en faisant de la surveillance ou du trafic que en. Mais tout ça, c'est quoi? C'est 1% de nos populations. Et on ne peut pas résumer ça. Là, on est dans un problème de gestion, justice, police. Mais on ne peut pas résumer nos banlieues à uniquement ces trafics. On peut par contre se poser la question, comment on donne autant de moyens aux 98% qui n'ont qu'une envie, c'est réussir et que leur famille réussisse. On n'est pas du tout contrairement à ce que.
Et c'est aussi ce que nous dit cette dame, quand même. C'est aussi ce qu'elle nous dit.
C'est aussi ce qu'elle nous dit.
Ça fait 25 ans qu'elle habite là. Elle voit les choses changer.
Qui sont encore là. Et il y a des associations qui croient encore à la réussite individuelle lorsqu'elle est accompagnée. Mais imaginez-vous. Moi, je pense qu'il faut penser l'enfant et la famille dans toute sa globalité. L'idée, c'est quand même de donner autant de chances à l'enfant qui veut réussir, alors que ses parents n'ont pas de réseau, pratiquent pas la langue française, ont une mauvaise connaissance de la République et puis vit dans ce contexte-là. Oui, donc on a des vraies obligations. Ça vous étonne pas après qu'on ait besoin à la fois de personnel plus qualifié qu'ailleurs, oui, et des moyens qui sont plus importants qu'ailleurs. Mais oui, quand on voit par exemple sur les collèges, je crois que les derniers chiffres font qu'il y a plus 4% en REP plus depuis quelques années et moins 0% dans les collèges qui réussissent le mieux en nombre d'élèves. Est-ce que autant de moyens ont été donnés? Pas du tout. Donc ça veut dire que la République française continue à concentrer. Quand on parle de mobilité, c'est important la mobilité, parce que l'enfermement qui naît de cette absence de mobilité physique et psychologique, cet enfermement-là, ça entraîne effectivement une dérive de l'esprit, ça peut l'entraîner. Et l'éviter, c'est mettre de la mobilité, pas seulement des trains, mais aussi de la mobilité, capacité à regarder ailleurs et à faire des choses ailleurs.
Stéphane Toussel, ce que j'entends aussi en creux dans ce que nous a raconté Monique, qui vit depuis 25 ans dans ce quartier-là, c'est aussi que la nature a horreur du vide. Et quand l'association disparaît, quand l'État disparaît, qui prend la place en bas des immeubles, effectivement, le trafic de drogue.
Monique a parfaitement raison. Ces trafics, ils existent. Ils ne doivent pas résumer la situation de ces quartiers.
Et c'est parce que j'ai entendu.
C'est pas ce qu'elle a dit. Mais ils ne doivent pas résumer la vie de ces quartiers. Il y a plein de familles qui, effectivement, au quotidien, se mobilisent pour faire réussir les enfants. Avant de venir, moi, j'étais avec 12 gamins de la Seine-Saint-Denis, qui ont, de tous les quartiers de la Seine-Saint-Denis, hein, qui ont participé à un championnat de lecture pour aller être parmi les meilleurs de France à la Comédie Française dans quelques semaines. Et avec des enseignants mobilisés, des parents d'élèves qui les accompagnaient pour les faire réussir. Donc ce que décrit Monique, c'est pas la réalité de tous ces quartiers, ça existe et c'est insupportable que, là encore, les élus, les habitants, les associations de quartier doivent se battre en permanence pour faire qu'on mobilise des policiers en nombre, que les procédures de justice aillent à leur terme, qu'il y ait plus d'officiers, de gradés dans nos commissariats, pour que les enquêtes soient menées et que des gens soient arrêtés et que, par ailleurs, enfin, le pays peut-être cesse d'être hypocrite sur la question du cannabis.
Ah bah, attendez.
Je pense qu'il faudrait peut-être ouvrir un débat sur cette question-là.
Bah, bougez pas, Stéphane Troussel, puisque Jean-Michel voulait aborder la question, on va le laisser faire. Bonsoir Jean-Michel.
Ouais.
Enlevez tout ce qui est autour, c'est à vous.
Ah, c'est marrant, quel bel enchaînement.
Ouais, oui, c'est beau.
Moi, je voulais intervenir justement à propos de cet aveuglement qui concerne le cannabis. Enfin, à un moment de temps, il va bien falloir qu'on voit les choses en face. Une des difficultés liées au quartier, bon, l'inscription des gens dans la société, hein, des gens qui vivent dans la société, il y a une difficulté, ils ont plus de mal que les autres à trouver des emplois. Et ben moi, je pense qu'à partir de l'économie qui a cours dans les quartiers autour du cannabis, et ben qu'on légalise le cannabis et que cette économie reste dans les quartiers, et que des jeunes porteurs de projets fassent face à une sorte de comité des sages. Moi, j'ai habité 5 ans dans un quartier, j'ai créé une entreprise, mon premier chef social était dans un quartier, et c'est des cigales qui m'ont financé, des finances solidaires. Voilà. Et tout à chacun, et peut-être même particulièrement des jeunes dans les quartiers, ont beaucoup d'imagination, et s'ils avaient en face d'eux la possibilité de porter un projet, et que l'économie du cannabis servent à bonifier ces projets via un comité des sages qu'on nommerait, qui serait élu. Alors, je n'ai pas réfléchi à la façon dont il serait élu, mais que l'économie qui a cours aujourd'hui dans les quartiers, qui sert à peut-être sortir un peu plus ces jeunes de la société, leur permette, par le côté positif, de financer un projet qui ferait face à un comité des sages.
On a bien compris votre proposition, Jean-Michel. Stéphane Troussel, qu'est-ce que vous en dites? Cela dit, très sérieusement, la question de la légalisation du cannabis dans les endroits où les trafics existent,
C'est pas seulement dans les endroits où les quartiers, alors, où elle existe, mais en tout cas, il faudra bien qu'on ait ce débat aujourd'hui, parce que ça mobilise à la fois des moyens policiers et de justice très importants pour un résultat dont chacun doit bien reconnaître qu'il est, totalement inopérant.
Dit, y compris dans des coins comme les vôtres, oui, on dit attention, trafics, si on arrête le cannabis, il y aura une recrudescence du trafic de cocaïne, par exemple.
Donc, moi, je dis pas que la solution est simple, mais en tout cas, l'hypocrisie actuelle, elle a assez duré. Et donc, il faudra bien que le pays ait un vrai débat approfondi. Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui, il est dans tous les esprits, y compris, on fait une première étape qui consisterait à passer à la contravention, à verbaliser les fumeurs. Bon, parce que ça gangrène un certain nombre de quartiers, c'est propice à tout un tas de trafics, ça rend insupportable la vie des gens au quotidien. Donc oui, moi en tout cas, je souhaite qu'il y ait un débat sur le sujet. Après, la proposition de Jean-Michel, autre chose. Je suis pas sûr que ça soit totalement opérationnel, mais en tout cas, je pense que oui, il faudra bien avoir une expertise approfondie sur le sujet.
Catherine Arnoux, en un mot juste sur cette question avant qu'on écoute Gilles qui nous attend au standard.
J'ai toujours eu le sentiment qu'on prenait le problème à l'envers, et je ne peux pas. Enfin, je pense que longtemps encore, en tant que médecin, je ne pourrais pas commencer à prendre le problème en disant on légalise le cannabis avec les dégâts qu'il cause.
Mulirani Moknash, ça vous parle ce débat ou pas? Est-ce qu'il faut en parler effectivement, y compris chez vous, en Seine-Saint-Denis, à Lyon et ailleurs?
Bien sûr, c'est une question qui est très importante. Après, on vaincra ces business et compagnies en corrigeant énormément de choses. Déjà en donnant une vraie place à l'école, en investissant dans les écoles de nos quartiers, en remettant de la culture dans nos quartiers, en investissant dans des lieux culturels. L'intervenant qui parlait avant parlait d'émissions, en fait. Il y a des associations qui disparaissent, et forcément qu'il peut y avoir des réseaux, des choses qui se font à la place. Les associations sont obligées de démissionner aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une situation où un maire démissionne, Lui, il a cette chance de démissionner, mais nous, habitants des quartiers, on ne démissionne pas. Et donc, du coup, on est obligé à chaque fois de corriger tous ces problèmes-là. Ces problèmes de trafic, comme le dit votre invité, c'est un problème police-justice. Ce n'est pas un problème habitant des quartiers populaires. C'est un problème de police et de justice. Et c'est aussi un problème d'État qui a abandonné les quartiers populaires, tout simplement, qui a démissionné. Mais nous, nous ne démissionnons pas et nous resterons là pour corriger ce problème. Et malheureusement, c'est un sujet qui touche tout le monde.
Gilles, vous avez été élu dans une commune, bonsoir.
Oui, bonsoir. Effectivement, j'ai été élu pendant 13 ans chargé de la politique de la ville. Et d'abord, je voudrais dire qu'il y a des tas de gens dans ces quartiers dits populaires qui font des choses admirables, qui s'investissent dans les écoles, qui s'investissent dans les équipements, qui s'investissent sur les initiatives. Et tout ça, c'est un tout. Mais en même temps, les politiques de la ville ont vu leur budget diminuer, du moins sur le fonctionnement, et voir des actions qu'il n'était plus possible de pouvoir mener parce que pas de moyens. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est tant qu'on n'aura pas réglé la question de la relégation, qu'elle soit spatiale, sociale, géographique, et tant qu'on n'a pas réglé la question de l'exclusion, on sera confronté au même problème. Ce débat que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, j'ai eu le même et j'ai entendu le même en 1995 quand j'étais élu. Merci d'avoir pris mon appel et félicitations pour vos éditions et félicitations surtout à ceux qui sont autour de la table et qui s'investissent tous les jours dans les quartiers.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Gilles. Ça va droit au cœur de Stéphane Troussel, de Catherine Arnoux et de Moulir Animoknache également. Évidemment que le problème, Catherine Arnoux, le problème de base, hein, c'est d'abord le chômage, d'abord l'emploi. Est-ce que c'est ça le... De toute façon, tant qu'on n'a pas réglé ça ou amélioré ça, on va dire, oui, mais, dans les quartiers comme ailleurs.
Mais le chômage et l'emploi, c'est aussi la formation, c'est aussi la qualification, c'est aussi l'orientation. Et vous me voyez revenir petit à petit vers la jeune enfance. Et donc, voilà, c'est tout cet accompagnement éducatif. Il y a un vrai travail à faire d'accompagnement, de proximité, d'individualité, de façon à ce que... On amène chaque jeune des quartiers qui a envie de réussir vers ce qui peut être. Naturellement, dans les autres endroits, les parents demandent la passion de l'enfant et accompagnent la passion de l'enfant. Je pense que la société a le même devoir dans nos quartiers, parce que des enfants passionnés, c'est tout le principe de la réussite éducative, des enfants passionnés qu'on peut accompagner vers une orientation, vers une formation, c'est possible, mais il faut en mettre quelques moyens.
Catherine Arnoux, je voudrais revenir un instant sur ce que disait Moulir Animoknache tout à l'heure. Les maires, ils peuvent démissionner, mais les habitants, ils sont encore là. Est-ce que vous l'avez eu d'abord, Catherine Arnoux? Nous, sincèrement, la tentation de jeter l'éponge, vous, comme votre collègue de Sevran, ou pas?
Oui, j'ai pas été la seule, j'étais assez bousculée.
Bah oui.
Assez bousculée parce que tant qu'on tient ensemble.
C'est vous qui avez créé le hashtag Nous sommes tous Gatignons.
Ouais. Oui, c'est pas très mon style d'habitude, mais là, je pense que je me suis lâchée. Quand on tient tous ensemble dans des situations difficiles, on tient ensemble. Dans une famille qui va pas bien, elle tient ensemble. Et puis, il y a un membre qui craque et on se dit, mais s'il a craqué lui, on peut tous craquer. Et du coup, on se demande si on n'en a pas envie et on se demande si on tiendra longtemps et qu'est-ce qui nous fait encore tenir. Je n'arrêtais pas de dire, moi, peut-être qu'il y a une étincelle à un moment donné qui va me faire lâcher, je ne saurais pas pourquoi, ça sera... Et on est nombreux, pour ne rien vous cacher, parce qu'on se connaît, on est nombreux à se connaître, on s'est téléphoné ou envoyé des SMS pour dire aux uns et aux autres, tu tiens bon. Parce que c'est aussi cette chaîne de maires qui veulent encore porter loin la politique de la ville, accompagnée d'associatifs, c'est aussi ça qui donnera peut-être la force. D'abord à nos gouvernants d'écouter le plan Borloo et d'écouter nos territoires et de donner des moyens pour les prochaines années. Effectivement, le risque, c'est si on lâche... Qui fera, voilà, qui s'occupera de ces territoires? Vous allez me dire, on n'est pas indispensable.
Parce que vous le disiez, oui, mais n'est indispensable.
Mais
vous le disiez,
quand on est passionné, c'est plus compliqué d'être remplacé.
Mais effectivement, vous le disiez, quand il y a que des jeunes profs, c'est un problème parce qu'il faut de l'expérience. Quand il y a que des jeunes flics, c'est un problème parce qu'il faut de l'expérience. Et ben, quand il y a que des jeunes maires aussi, non, Stéphane Troussel?
Non mais on peut comprendre que après 17 ans de mandat, il y a eu aussi une forme de lassitude. Il y a une forme de lassitude dans une ville qui est difficile.
Non mais on a difficile. Le droit. Mais c'est un coup de semonce de quelque chose en
bien
fait.
Bien sûr.
Quand même.
Mais surtout, ce qu'il y a de rageant, de mon point de vue, c'est que ce que les uns et les autres nous portons, ce que nous disons, que ce soit dans nos responsabilités d'élus ou les acteurs associatifs ou ces profs, ces artistes engagés dans nos quartiers, c'est pas seulement, comment dirais-je, pour nous-mêmes, et j'ai presque envie de dire pour les habitants de ces quartiers. C'est même pas seulement. On veut essayer de convaincre le pays que c'est ici que ça se joue, que j'ai beaucoup de respect pour tous les autres territoires, mais enfin, l'évolution de nos pays, c'est quand même l'urbanisation. Notre pays, comme l'Europe, sont en train de vieillir, et nous, on a la chance d'avoir de la démographie. Donc c'est là que ça se joue. C'est un problème pour le pays tout entier. Il faut convaincre le pays qu'il doit mettre le paquet, parce que c'est son avenir qui est en jeu dans ces quartiers.
On a entendu les bips, mais Mounir Ali Mokhtar, je ne veux pas vous lâcher comme ça. Juste un mot, puisque c'est comme ça qu'on avait commencé très rapidement. Les maires, patrons de département, parlaient de ce rapport Borloo en disant « pourvu qu'il nous amène quelque chose ». Est-ce que de votre point de vue aussi, du point de vue associatif, effectivement, c'est peut-être une clé? Et si cette clé ne marche pas, ce sera compliqué.
Bah pour être honnête, on a communiqué un peu sur ces... On a été invité à participer à ces commissions, on a communiqué un peu... auprès de ces commissions. Les maires, les élus, les habitants attendent beaucoup de ces commissions, mais très honnêtement, ces commissions se sont déroulées d'une certaine façon qui n'a pas pu faire avancer le débat. Il y a eu très très peu d'habitants des quartiers populaires, très peu de petites associations. On a eu des dates de commission qui ont changé la veille, etc. Il n'y a pas de vraies propositions, enfin des propositions qui sont sorties mais qui ne venaient pas forcément de nous parce qu'il y avait beaucoup d'élus et de grands techniciens dans ces commissions. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que
très vite,
concrètement, l'association Passe en Nous va délivrer des propositions qui seront un peu hors cadre des commissions et elles seront communiquées directement au ministère, et on espère vraiment que ces propositions vont être retenues. En tout cas, il faut que notre parole et la parole de syndicat des quartiers populaires soient entendues.
Merci beaucoup, merci à tous, merci vraiment. Laure Adler, pardon, j'ai pris du retard, Laure, je suis désolée, mais bonsoir.
Bonsoir Fabienne, nous allons parler de Calais, de la situation des migrants aujourd'hui en France, un sujet qui vous intéresse, je le sais Fabienne.
Allez, à tout à l'heure dans 3 minutes, il était encore 20h, il y a une minute sur Inter.